Chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Bonsoir.
Hola.
Salut.
Il est 18h, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas entendus et c'est Chronique Mutante sur Radio Panique. Ce soir, on a une émission un peu chargée. On reçoit des personnes qui vont réouvrir le Crédit Circle, l'empêcher de mourir. On vous en dira plus tout à l'heure. Et vous avez prévu quoi ?
Moi, j'ai prévu une chronique sur les lunaisons de cette année.
Wow.
Et ben, pour rester sur la Lune, les planètes, je vais vous parler d'un livre d'Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, je ne sais jamais comment on le dit, mais je trouve que Le Guin,
c'est Ursula Le Guin, ouais, ça sonne bien.
Stylé. Voilà.
Moi, j'ai une petite revue de presse et poussant à la technique, une petite playlist.
Oui, une petite playlist éclectique et comme ça. Ouais.
Cool. On part sur une chanson.
Allez. Mais je me prépare, mais après je suis distrait. On va passer Vive la fête avec le morceau Mai.
Vive la fête qui retourne en ce moment, j'ai vu.
Mais
ils
oui,
ont fait un concert.
Ils ont fait un concert il n'y a pas longtemps.
Ouais. Ils réapparaissent un peu.
Ouais.
Les vieilles casseroles, tout ça, tout ça.
Ouais, j'ai vu qu'il joue quelque part en Wallonie avec Maya Cox.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Maya Cox qui est DJ résidente dans une émission sur Radio Panique.
Ah oui, c'est pour ça que j'ai cité son nom.
Et c'est parti.
Toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois. Allez, allez, rouler jusqu'à l'extrémité. Tout ce qu'on fait, c'est unique, les exercices visibles. Comme nous sommes tout en flamme, que je vous aime en homme. Cette la télépathie semble parler du dit. Je reste, tu ne sors pas, l'extase dans tes bras. Pas pour l'éternité.
Chronique Mutante, l'émission en rose et noir de Radio Panique.
De retour à Chronique Mutante, et on a été rejoint par Sarah et Cécile qui font partie du collectif qui reprend le Crazy Circle. C'est un bar lesbien, le seul bar lesbien pour les personnes Flinta à Bruxelles. Bon, vous avez déjà parlé du Crazy Circle, de toute manière, vous connaissez. Et on avait appris il y a quelques mois que le Crazy Circle allait fermer, et on vient d'apprendre que le Crazy Circle n'allait pas fermer. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bah du coup, les anciennes gérantes cherchaient des repreneureuses. Et donc, au début, elles ne trouvaient vraiment personne qui correspondait au projet, parce qu'elles voulaient absolument qu'il y ait une continuité dans le projet d'un bar lesbien ou finta. Et nous, quand on a eu l'annonce sur Instagram, on a commencé à. Enfin, l'annonce qu'elles cherchaient des repreneureuses, on a commencé à en faire des blagues, comme sûrement la moitié des goudous de Bruxelles au mois de juillet. Et puis, cette blague s'est petit à petit concrétisée au fur et à mesure, et aussi en sachant que personne d'autre voulait vraiment reprendre avec, dans cette ligne-là.
Et donc, vous avez lancé un groupe de personnes pour, je sais pas, trouver les sous. Enfin, comment on reprend un bar quand on ne fait pas l'horeca, en fait ? Parce que c'est quand même toute une démarche.
Ouais, clairement, y a plusieurs challenges, quoi. Et en plus, y avait l'idée de redonner aussi un petit coup de peinture au lieu, puis y amener... une nouvelle énergie, tout en restant dans la continuité de ce qui a déjà été fait dans ce lieu. Donc il y a rassembler des fonds pour payer les travaux, racheter le fonds de commerce aussi à un prix juste aux anciennes tenancières qui ont vraiment fait un travail de fou aussi jusqu'à maintenant. Il y a créer une ASBL, rencontrer toute la communauté aussi.
Enfin, une partie de la communauté, évidemment, on ne va pas prétendre connaître tout le monde ou que tout le monde nous connaît, c'est bien normal. Mais en tout cas, s'intéresser à tous les projets qui existent déjà, voir comment continuer, comment ce qui existe déjà peut s'articuler à la suite. Et il y a quand même des énergies ou des personnes dans le groupe qui connaissent bien l'horeca, qui connaissent bien le bar, qui connaissent bien aussi toutes les problématiques liées au monde de la nuit, que ce soit les nuisances sonores, les prises de substances ou toutes les violences qu'il peut y avoir dans ces espaces-là. Donc on fait beaucoup de formations entre nous aussi. Assurer un maximum.
Et vous êtes combien ?
On est 3 plus 4 slash 5. Mais en gros, 3 qui s'investissent vraiment, qui veulent vraiment en faire leur job et essayer de se payer un minimum. Et 4-5 personnes autour qui sont vraiment investies et sur des choses plus précises. Du coup, c'est comme un peu un collectif autogéré et on se soutient beaucoup tous ensemble.
Ok, du coup, ça... C'est prévu pour quand, en fait, la fermeture officielle ? C'est déjà fermé, en fait ?
Oui, là, c'est fermé et on a le projet de réouvrir vers le 22 mars. C'est ça, hein ?
Wow, that's fast.
Parce qu'on attend, comme il y a un changement, on doit refaire toute une série de contrôles de sécurité, pompiers, électricité et tout ça. Donc, on attend ça et puis avec impatience, on va ouvrir le plus vite possible.
Les travaux que vous voulez faire, du coup, je m'entends pas très bien, mais... Et les travaux que vous voulez faire, vous aurez le temps de les faire d'ici le 22 mars ?
Oui, en fait, c'est beaucoup. C'est surtout beaucoup des aménagements où, comme disait justement Sarah, refaire des contrôles électricité et pompiers. Donc là, c'est normalement des choses pas trop conséquentes. On ne va pas construire 15 nouveaux murs, a priori. Du coup, ça peut se faire dans le timing et on aimerait vraiment réouvrir... au mois de mars, quoi.
Pour le printemps.
Même s'il n'y a pas de date officielle.
Oui, non, on aurait aimé un peu plus pousser les murs, hein, parce qu'on est de plus en plus...
Oui, c'est un peu petit, le Crazy, ouais. C'est l'inconvénient du lieu, ouais. Mais maintenant, il y a une terrasse, quand même.
Oui, c'est ça.
Il y a une terrasse dans l'horeca, on peut ouvrir une terrasse sur les 4 mois entre printemps et été. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est que c'est un lieu qui n'est pas du tout accessible. Parce que déjà, il y a plusieurs marches pour accéder. C'est étroit. Il n'y a que 2 toilettes qui sont à l'étage. Donc, c'est vraiment un lieu. Dans l'idéal, on changerait de lieu. Mais pour l'instant, on n'a pas ni les fonds ni les forces pour faire ça.
Ok. Et donc, vous cherchez de l'argent.
Oui, on cherche de l'argent. Du coup, on a lancé un financement participatif, autrement dit un crowdfunding. Et là, on a déjà près de 60%. Donc là, on est presque dans la dernière ligne droite, mais voilà, faut pas lâcher, continuer à en parler autour de nous, aux personnes concernées ou pas, Si vous avez un ou une riche héritière dans vos entourages qui ne sait pas quoi faire de cet argent, n'hésitez pas à lui en parler. Voilà.
Et ça va garder le même nom ?
Oui, alors déjà, elles avaient, donc les anciennes gérantes avaient repris le nom du bar qui était là avant. Donc c'est... Et nous, pour l'instant, on reprend. Et l'idée, c'est qu'il y a quelque chose aussi très collectif dans la gestion de ce bar, petit à petit. Et si un jour, il y avait un groupe général qui disait « Tiens, on voudrait tous ensemble changer le nom », alors on pourrait imaginer réfléchir collectivement à ça. Mais pour l'instant, on garde l'identité. On a refait le logo, mais c'est... on est resté dans une identité qui ressemble très très fortement à celle qui est là actuellement. On a plus changé les couleurs en fait, plus que la forme, etc.
Et du coup, vous avez l'air d'être un petit groupe avec plein de compétences différentes, j'ai l'impression. C'est un peu ce qui fait votre force, non ?
Oui, en tout cas, on est très bien entourés.
Oui, à fond, on a aussi des copaines là, qui nous aident à créer une nouvelle armoire pour le fond du bar. Il y a des copaines qui sont plus calées dans tout ce qui est culturel, programmation musicale. Sur l'inclusivité aussi, d'autres compétences qui sont là, et puis les copaines qui ont déjà passé du temps derrière le bar. Donc bon, ça nous donne de la confiance, ou en tout cas on se sent entouré et on sent quand même un effet un peu de collectif autour de ce projet. Voilà.
Et on apprend beaucoup de choses dans les compétences des autres, et enfin par les compétences des autres, et on essaie vraiment de chercher des gens qui appartiennent à la communauté. Et essayer au maximum d'avoir des rémunérations, que ce soit un prix libre ou une vraie rémunération en fonction des demandes des personnes et des capacités que nous on peut aussi. Donc on essaye de chercher vraiment dans la communauté et de faire le plus juste possible, même si on a assez peu de moyens pour l'instant.
Ok, ben merci à vous, franchement, vous assurez. Hein.
Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Là, de rien. On peut écouter une chanson, après pour aller compléter, si on veut dire, des trucs. Il faut encore que vous nous donniez tous les contacts, l'adresse mail et tout. On peut faire ça après la chanson, si vous voulez.
Et je vous propose d'écouter Aval, qui était hier en concert à Nast Monique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir...
Thank you. présente une émission Rallye, Rallye Cool.
Et on est toujours avec Cécile et Sarah qui font partie du collectif qui reprend le Crédit Circle, le seul bar lesbien pour personnes finta de Bruxelles. Et on vient de faire un petit tour, mais on se demandait un peu comment, hors antenne, là, comment se passait la passation avec les anciennes gérantes.
Super bien, elle nous accompagne depuis le début, elle nous forme sur certaines choses sur lesquelles on n'était pas formés, elle nous montre comment ça se passe dans le bar, que ce soit de la gestion administrative, de l'accueil du public, ou gérer derrière le bar le service, etc. On a été plusieurs aussi à faire un service avec elle pour tester un peu le travail, l'ambiance, avant de se décider à reprendre. On construit vraiment la suite du projet ensemble. Il y a plein de choses au niveau des travaux qu'elles vont faire avec nous. Enfin voilà, on a reçu aussi une magnifique boîte à outils.
De leur part.
De leur part. Ah, trop chou. Parce que les deux premiers jours, on empruntait leurs outils et puis il y en a une qui est arrivée. Bon, il est temps que vous deveniez adulte. On vous offre une boîte à outils.
Ah, c'est très chou. Parce que du coup, elles ont super bien accueilli la nouvelle, j'imagine, de savoir que le bar qu'elles avaient un peu créé allait être repris.
Pas mal. En tout cas, les échanges sont super cool. Et depuis le début, on a des longs moments aussi de rencontres où on a pu échanger avec elles aussi sur comment ça a commencé, la philosophie derrière, leur histoire à elles dans ce bar et puis comment ça se connecte aussi à l'histoire des bars lesbiens dans Bruxelles. Le fait que c'est le seul lieu fixe à Bruxelles. Alors, il y a d'autres bars parfois émergents mais qui sont plus à durée déterminée. Et puis celui-là, il est là, il bouge pas. Et du coup, c'est super intéressant en fait de discuter, d'avoir pu les rencontrer aussi sur du temps plus long et de voir aussi le début de l'histoire, quoi.
Ouais, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bar lesbien. Je sais qu'il y en avait eu il y a longtemps et des copains plus âgés ont connu, mais qui ont fermé tous successivement et notamment parce qu'il y avait beaucoup de bastons et tout ça. Apparemment, c'est ce que voilà. Mais il y a toujours eu des bars lesbiens à Bruxelles. En fait, il y a eu juste un gros trou. Mais je voulais me renseigner avant l'émission, j'ai pas eu le temps de faire un peu l'historique, mais on fera ça plus tard, une autre fois.
Mais peut-être qu'elles ont des choses, justement, les anciennes à apprendre sur comment gérer les potentiels bastons, les problématiques de soirée.
Allez, mais hier, j'étais à la soirée à lesbien, là, et on en parlait, et je crois que le milieu lesbien a beaucoup changé aussi. Ouais. Je crois qu'avant, c'était vraiment, on se laissait totalement aller dans une sorte de masculinité toxique, vraiment dégueulasse. Et que là, maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé, et je crois que c'est bon, il n'y a plus trop... Il n'y a plus trop de bastons, enfin, il n'y avait pas de bastons au Crédit Circle, je crois pas. Hein.
Ben, très peu en tout cas.
Très peu, donc ça veut dire... ça veut dire qu'il y en a quand même eu un peu. Mais j'y vais pas assez, j'ai pas assisté à ça.
Non, mais vraiment très peu. Après, si on aborde ce truc-là, c'est aussi tout ce qui est... En général, la réponse, ça veut dire une réponse policière. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça de manière aussi anticarcérale et sans ça, c'est aussi plein de questions sans mettre en danger d'autres personnes autour. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une des priorités, problématiques qui ressort vraiment de ce lieu.
Mais c'est en tout cas un sujet que vous avez dans la tête et que vous allez considérer, quoi. Mm-hmm. La question de comment on va faire justice au recyclard et n'importe quoi
au Crédit Circle. Faire justice, je sais pas, mais enfin, c'est plus la posture en tant que gérante ou barmaid. On n'est pas là pour, on n'est pas je sais pas où je vais avec cette phrase, mais mais c'est plus comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible et de prendre soin un maximum. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qu'on va mettre en place en amont pour pouvoir réagir, pour que les gens soient informés s'il y a un problème, ou etc. Donc, je pense qu'on va faire un maximum pour anticiper.
Réfléchir en tout cas aux questions de violence aussi intracommunautaire, le savoir que ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention. Après, l'espace safe absolu, on sait qu'il n'existe pas forcément, mais d'y réfléchir en tout cas, et que ce soit un sujet actif, dynamique, et qui est au centre aussi... de cet espace, quoi.
Ouais, qu'au centre aussi des postures qu'on a, de où on vient, de ce qu'on amène aussi juste par nous, étant nous-mêmes et reprenant ce bar, et du coup essayer de pallier un maximum à nos biais, etc., pour que ce soit un lieu où les personnes se sentent le plus à l'aise possible.
Cool. Il va y avoir plein de monde à la soirée d'ouverture. Vous savez ça, que la rue va être pleine et...
Il y a eu une très belle soirée, en tout cas pour les 5 ans, et la rue était pleine et c'était très chouette. Et on espère qu'il ne pleuvra pas pour la réouverture.
Yes.
Mais même s'il pleut, on sera là.
Nous aussi. Enfin, en tout cas, moi, je serai là, je pense. Il y a des chances.
Cool.
Mais cool, merci d'être passé. Si vous voulez rester à l'émission, il n'y a pas de souci. Si vous voulez partir, ne vous gênez pas. Voilà.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci.
Est-ce qu'on fait une pause musicale ou est-ce qu'on enchaîne vu qu'on a un programme chargé?
C'est comme vous voulez, moi j'ai de la réserve.
Eh ben non, c'est juste qu'il reste moins de 40 minutes et j'ai l'impression qu'on a encore 3 chroniques. Je sais pas si tu... Sinon on enchaîne direct avec la revue de presse, après on fait la pause musicale.
Ben, c'est vous qui voyez.
Bah ouais.
Ça me paraît pas mal.
Ouais, je pense que c'est pas mal.
Ok, alors jingle, revue de presse. Qui n'est pas là? On peut enchaîner avec les revues de presse.
Allez, c'est parti. On commence cette revue de presse avec notre copain Poutine, qui affirme que les Russes qui ont émigré reviennent vivre en Russie à cause des toilettes mixtes en Occident. Eh ben oui, les toilettes semblent avoir la cote dans le débat public en Russie, puisque le gouverneur de Saint-Pétersbourg s'est également emparé du sujet. Il explique que des soldats russes ont découvert des toilettes pour élèves non binaires dans les écoles ukrainiennes et que cela justifie de combattre en Ukraine. Et pendant ce temps, l'ennemi juré du grand vilain russe passe en mode auto-da-fé. Après les livres évoquant les LGBT, c'est au tour des dictionnaires et des encyclopédies d'être retirés dans plusieurs écoles de Floride en vertu de la loi « Don't say gay ». Faut dire qu'on y trouve des définitions en lien avec le sexe. Et toujours aux US, malgré ses tentatives pour étouffer l'affaire, SpaceX fait l'objet d'enquêtes au sujet d'accusations de harcèlement sexuel et de discrimination au sein de l'entreprise cofondée par Elon Musk suite à 7 plaintes déposées par d'anciennes plutôt employées. Les ingénieurs décrivent une culture d'entreprise sexiste où les commentaires à caractère sexuel et autres formes de harcèlement sont tolérés, où les femmes sont moins bien payées que les hommes à travail égal et plus rarement promues. L'avenir dans les étoiles ne sera pas woke, ça c'est sûr. Et on refait un petit crochet en Russie qui nous avait déjà manqué. Un tribunal a condamné une photographe à une amende pour avoir mis en ligne des photos de l'étendard arc-en-ciel, symbole considéré comme extrémiste. Et on va encore aux États-Unis, c'est le ping-pong, hein, États-Unis, Russie. Il y a un homme de 20 ans qui a été condamné à 18 ans de prison pour avoir jeté des cocktails Molotov sur une église accueillant un événement de drag queen dans l'Ohio. Alors nous, on a les mêmes problèmes avec les drag queens en Belgique, mais on n'a pas avec les cocktails Molotov, c'est un level au-dessus là-bas. Et on va au Yémen où 13 personnes accusées d'homosexualité ont été condamnées à mort par un tribunal dans une région aux mains des rebelles Houthis, a affirmé une source judiciaire qui veut rester anonyme. Il y a eu des images du procès qui n'ont pas été identifiées. Donc voilà, ça à prendre en pincette, mais a priori c'est vrai. Selon un rapport publié en 2022 par l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, 350 condamnations à mort ont été prononcées dans les zones rebelles depuis que les Houthis se sont emparés de la capitale en 2014, dont 11 ont été exécutées. Et je vais citer Niku Jafarnia, qui est une chercheuse pour le Yémen à Human Rights Watch, qui dit « Les Houthis multiplient les abus dans leur pays alors que le monde est occupé à regarder leurs attaques en mer Rouge. » Donc quand elle parle des attaques en mer Rouge, c'est que les Houthis en ce moment sont en train de faire quelque chose de plutôt bien, c'est d'empêcher les navires faisant du commerce avec Israël de passer par la mer Rouge, qui sont obligés de faire tout un détour très très grand par... faire le détroit de par le sud de le cap de Bonne-Espérance et tout. Et donc du coup c'est pour ça qu'on parle beaucoup des Houthis en ce moment. Et d'ailleurs en décembre, une militante yéménite des droits humains, Fatima Saleh Al-Arwali, a été condamnée à mort pour espionnage dans la capitale Sanaa. Elle est accusée d'avoir fourni des informations aux Émirats Arabes Unis, membre de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite et qui appuie les forces gouvernementales depuis 2015. Et on va en Espagne où l'affiche officielle retenue pour les festivités de la Semaine Sainte à Séville suscite la colère des milieux ultra-conservateurs qui réclament son retrait, la jugeant offensante. Le Christ y est représenté dénudé, efféminé et maniéré. Et c'est vrai que franchement, on dirait une grosse pédale. C'est hyper sexy, Jésus, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais il est vraiment... il est hot. Et en France, l'Assemblée nationale va examiner début mars une loi mémorielle déjà adoptée au Sénat visant à offrir réparation aux personnes condamnées pour homosexualité entre 45 et 82. Et idem en Belgique, la Chambre a adopté une proposition de résolution du PS qui demande au gouvernement de renforcer le travail de mémoire autour du sort des personnes LGBTQIA+ en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale. En finit positivement, en Grèce, le projet de loi autorisant le mariage entre les personnes de même sexe, qui suscite un vif débat, j'imagine qu'on en reparlera, a été déposé au Parlement, où il sera soumis d'ici 15 jours au vote des députés. Et on finit cette revue de presse à Taïwan, où la députée Wang Ji, 31 ans, désolée j'ai vraiment du mal à prononcer son nom, est la première élue ouvertement lesbienne au Parlement. Bravo à elle.
Bravo les lesbiennes.
Vive les lesbiennes. Vive le Crazy Circle. Tout à l'heure, elles sont parties, elles n'ont pas donné... L'Instagram et tout ça, là, on oubliait, mais on va, avec le podcast et sur les réseaux sociaux, vous mettre le lien de la cagnotte de crowdfunding pour que vous puissiez verser de l'argent et les comptes Instagram pour que vous puissiez suivre l'évolution du projet. Voilà.
Merci.
Est-ce qu'on passe un petit morceau de musique ?
Ouais.
Oui.
Et du coup, il sera très court. Mais c'est un morceau que je redécouvre un peu en ce moment. C'est Colette Mani avec Chanson de la plus haute tour.
Oh wow.
J'adore.
Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livré, grandi et fleuri, dansant et livré, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.
Ta bonne mine! T'as fait un truc à tes cheveux?
Non, j'écoute Chronique Mutante.
Des couleurs en plus. Gay.
Bisous, les.
C'est des couleurs très gay, les nouvelles couleurs de Crazy Circle. Very homosexual.
C'est-à-dire, c'est quoi les couleurs gay?
C'est du violet, du bleu, du orange, du blanc, du bleu clair.
C'est toutes les couleurs, quoi. Vas-y, fais voir. Ah oui, c'est vrai que c'est pareil, en fait. Yes, donc on était toujours sur le crazy, mais là on parle bouquin, Margot ?
Oui, j'ai perdu le passage que je voulais vous lire, et comme j'ai corné toutes les pages presque de ce livre, c'est assez compliqué. voilà. Mince. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pendant 5 minutes ?
Oui, je peux un petit point agenda lundi, voilà, super, 12 février. Au DK, il y a Mathilde Saliou, qui est journaliste spécialiste du numérique, qui va présenter son ouvrage « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». Dans ce livre, elle décortique les multiples facettes de ce phénomène et montre que l'espace numérique, s'il peut contribuer à augmenter le pouvoir d'action des personnes minorisées, peut aussi agir comme un catalyseur des inégalités dont elles sont victimes. Donc c'est au DK, rue du Danemark, septembre à Saint-Gilles, et c'est lundi 12 février, mais je ne sais pas à quelle heure, je pense le soir.
C'est merci, bon c'est bon, j'ai retrouvé mon passage. Donc j'imagine que beaucoup de monde connaissent déjà Ursula Le Guin, du coup. On va dire Le Guin, c'est quand même...
Ah oui, avec un tel nom, comment ne pas la connaître ?
C'est clair. Et donc qui a écrit énormément de livres de science-fiction et de fantasy. C'est ses seuls, c'est ce médium en fait, pour écrire, c'est la littérature de genre. Je redis juste ses dates pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, elle est née en 1929 et est morte il n'y a pas si longtemps, en 2018. Donc, elle a écrit des romans, des poèmes, elle a aussi écrit des essais. Elle a écrit un peu de philo, elle a écrit de la science-fiction, de la fantasy, de l'heroic fantasy, voilà, tout ça. Et elle a eu énormément de prix, donc elle a été très aussi visibilisée. Pour une femme qui écrit de la science-fiction, pour une femme qui écrit déjà, tout court. Et elle a reçu, oui, toutes sortes de prix, donc des prix qui étaient des prix attribués à la littérature de genre habituellement, mais aussi des reconnaissances du monde littéraire plus largement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est quand même une grande autrice. Et qui est aussi réputée pour être une grande humaniste et une personne qui s'est politisée aussi beaucoup et qui est très féministe aussi. C'est vraiment un des sujets de ses livres, ou en tout cas dans sa littérature et dans ses romans. Il y a une vraie évolution, on voit vraiment arriver des personnages féminins qui n'étaient pas là au début. Elle en parle d'ailleurs dans certains de ses essais, de sa prise de conscience par rapport au manque de personnages féminins dans la littérature de genre. Et là, le livre dont je vais vous parler, c'est pas un roman, c'est complètement autre chose. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Ça s'appelle Le langage de la nuit. Donc déjà, j'aime beaucoup le titre. Voilà. Aux éditions Les Forges de Vulcain. Et c'est juste un recueil de petites conférences qu'elle a données ou alors des préfaces de livres qu'elle a écrites pour des consoeurs ou des confrères, pour des petites introductions qu'elle a faites lors de réunions de plusieurs auteurs et autrices de science-fiction. Et tout cet ensemble-là est vraiment une sorte de défense des imaginaires de manière générale et de la littérature de genre. Et aussi une critique. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a les deux à l'intérieur. Donc elle défend évidemment les imaginaires et ça donne envie de lire beaucoup de livres. Il faut vraiment avoir un petit carnet et noter toutes les références qu'elle donne parce qu'elle en donne plein. Ça donne envie de lire plein de choses. Ça donne aussi envie de relire des choses. Moi, je suis en train de relire Le Seigneur des Anneaux parce qu'elle en reparle dans le livre. Je me suis dit, c'est vrai que c'était génial. Et voilà, je l'ai relu, je suis à fond, hein, vraiment, avec le Hobbit et tous ses copains, là, c'est super.
Il est passé en France pendant Noël.
De...
Le Seigneur des Anneaux.
Le film ?
Ouais.
Ah ok, trop bien. Bah, oui.
Tu veux dire à la télé ?
Oui, à la télé.
Ah, on est ravis de l'apprendre, Lou.
J'imagine.
Je pense que Lou, t'étais en France à Noël, non ?
Ouais.
Quelque part où il y avait une télé.
Oui.
Et tu l'as regardé alors ?
Oui.
Mais c'était bien.
C'est la première fois que je l'avais regardé, donc ouais.
Ah ouais, c'était ta première fois ?
Ouais.
Waouh, wow. Incroyable.
Non, moi, je l'ai vu au cinéma, je me suis endormi. Hein. Les
ah
deux,
ouais
les deux fois que j'ai essayé de le voir.
C'est pas vrai ?
Oui.
Ah, mais allez.
Allez, quoi. Ouais.
Franchement, s'il y a bien un film sur lequel tu t'endors pas, c'est bien ça, non ?
Ben, Le Seigneur des Anneaux, je me suis endormi, je sais pas. Ah,
c'est ouais. La musique, elle est très belle, c'est pour
bon,
ça.
Bon, petite anecdote, voilà.
Voilà, mais en tout cas, là, je ne veux pas trop parler du Seigneur des Anneaux. Comme je suis dedans, là, j'aurais pu parler de ça, mais c'est pas le sujet, hein, complètement. En tout cas, pas complètement le sujet, parce que ça revient quand même assez régulièrement dans ce livre-là. Et alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Enfin, j'ai lu Le Langage de la Nuit entre plusieurs autres livres que je devais lire, que j'avais lu, et j'arrivais plus trop à lire. Et là, j'ai lu ça, et ça m'a vraiment fait hyper plaisir, en fait, juste parce qu'elle écrit très bien. Et c'est très drôle aussi, elle a énormément d'humour. Et comme là, c'est aussi quelque chose qu'elle a écrit, donc c'est des textes assez courts qu'elle a écrit pour être dit. En fait, c'est écrit pour être dit, la plupart, ou être très court comme des préfaces. En fait, c'est une langue très orale et très agréable à lire et pas du tout ardue. Au contraire, même si elle fait appel à pas mal de concepts à des moments, c'est quand même hyper accessible. Et juste en tant que personne qui lit la littérature de genre depuis toujours, et aussi tout le reste, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose que j'avais envie d'entendre aussi, de dire on a besoin de cette littérature-là, c'est un vrai besoin. Et moi, je voulais juste dire ça aussi, ça m'a fait écho à mon travail de libraire, voilà, que pour l'instant, je cherche du travail d'ailleurs, si jamais, et en librairie. Et bref, en tant que libraire, en conseillant des livres, on constate quand même que la littérature de genre a fait mauvais genre. Voilà, carrément, auprès des gens et du grand public, quand même, même si ça change un peu, il y a, on va dire, la majorité des gens, quand même, soit sont gênés de dire qu'elles lisent de la science-fiction ou de l'heroic fantasy, se planquent un peu, ou alors sont vraiment des geeks qui assument à fond, mais donc ça, c'est plutôt une minorité. Mais sinon, moi, je considère la littérature de genre, la science-fiction et l'heroic fantasy et tout ce qu'il y a, évidemment, avec plein d'appellations entre ces choses-là, comme de la littérature, tout simplement. Et quand je fais un conseil, si quelque chose me paraît intéressant pour la personne qui est en train de me poser des questions, je ne vais pas hésiter à le conseiller. Et souvent, j'ai des gens qui me font quand même des sales têtes ou qui ne sont pas très réceptifs. Et je constate, et elle en parle aussi dans son livre, encore moins les hommes. Enfin, vraiment, encore moins les hommes cis hétéros, je pense, hein, on peut le dire, qu'il y a vraiment une crainte presque de la littérature de genre, comme c'est vraiment un truc pour les bébés, pour les enfants, pas pour les hommes sérieux, quoi, clairement. Alors que là, c'est une affaire très sérieuse hein, pour Ursula Le Guin, qui critique en même temps son propre milieu, et notamment les hommes dans son milieu qui se sont appropriés aussi la littérature de genre pour devenir un espèce d'espace où ils vont pouvoir développer leurs connaissances un peu techniques. Genre nous, on est des écrivains un peu techniciens, on écrit sur la technologie, on écrit ou alors sur la guerre. Où en fait les femmes ont des seconds rôles, voire carrément, on sait qu'il y a quand même pas mal de cette littérature, et je mets même des guillemets à littérature, hein, qui fait la part belle quand même à la culture du viol et à ce genre de choses, quoi. Donc bah, voilà, elle parle de tout ça en long, en large et en travers, et elle est vraiment très drôle, elle a une langue extra, ça donne envie de relire ses livres aussi. Et voilà, je ne sais pas si on a le temps pour que je lise un petit passage ou c'est un peu juste.
Ben, je pense que ça va, s'il reste 20 minutes pour ta chronique après, Luce. Ouais. T'as 4 minutes, ça va?
Oui, ok. Je pense que
désolée,
ça va.
Je fais un peu mettre du temps comme ça. Mais...
ben, je vais lire et puis si à un moment, je vais m'arrêter. C'est un petit passage où elle parle de la science-fiction américaine et l'autre, avec un grand A, qu'elle a écrit en 1975. Voilà. Voilà. Un des premiers grands socialistes avait noté que la situation des femmes dans une société donnée était un signe assez fiable du niveau de civilisation de cette société. Si cela est vrai, alors la situation déplorable des femmes dans la science-fiction devrait nous faire réfléchir, et nous devrions nous demander si la science-fiction peut être dite civilisée. Le féminisme a permis à la plupart d'entre nous de nous rendre compte que la science-fiction a complètement ignoré les femmes, ou bien les a présentées comme des sortes de poupées qui couinent, tandis qu'elles se font violer par des monstres, ou comme de vieilles scientifiques célibataires, devenues asexuées suite à l'hypertrophie des organes intellectuels. Ou au mieux, comme les épouses dévouées ou les maîtresses fidèles du grand héros. L'élitisme masculin sévit de manière endémique dans la science-fiction. Mais s'agit-il uniquement d'élitisme masculin ? À suggestion des femmes, y est-elle le symptôme d'une attitude globale, autoritaire, qui vénère le pouvoir, qui s'enferme dans ses principes étroits? Autrement dit, il est question ici de l'autre, de celui qui est différent de soi-même, par son sexe, par ses revenus annuels, par sa façon de parler, de s'habiller et d'agir, par la couleur de sa peau, par le nombre de jambes et de têtes. On pourrait donc parler de l'autre sexuel, de l'autre social, de l'autre culturel et enfin de l'autre racial. Ainsi, qu'en est-il de l'autre social dans la science-fiction ? Qu'en est-il pour employer la terminologie marxiste du prolétariat ? Où se cache-t-il dans la science-fiction ? Où sont les pauvres ? Où sont ceux qui travaillent dur et qui se couchent le soir venu le ventre vide ? La science-fiction nous les présente-t-elle jamais comme des personnes ? Non, elle nous les présente comme une vaste masse anonyme qui fuit les énormes globules visqueux qui sortent des égouts de Chicago, qui se fait exterminer par la pollution ou les radiations. Elle en fait les soldats sans visage des armées que les généraux et les politiciens envoient au combat. Dans la fantaisie, ils font souvent penser aux figurants dans une mise en scène d'un conte de fées par un théâtre amateur. De temps à autre, il échoit à une jeune fille plantureuse de recevoir l'honneur de l'attention momentanée du capitaine du commandement suprême des forces terriennes. Parfois, l'équipage du vaisseau spatial compte en ses rangs un pittoresque vieux cuistot qui aura la charge de représenter, par ses dictons, le plus souvent énoncés avec l'accent écossais ou suédois, la sagesse populaire. Le peuple dans la science-fiction n'est jamais constitué de personnes. C'est une masse qui n'existe que pour une seule raison, être dirigée par ses supérieurs. Du point de vue social, une grande part de la science-fiction s'est contentée d'être extraordinairement rétrograde et a complètement manqué d'imagination. Tous ces empires galactiques ne font que ressusciter l'Empire britannique de 1880, toutes ces planètes distantes l'une de l'autre de quelques 150 millions de kilomètres s'assimilent à des nations en guerre ou à des colonies qu'il faut exploiter. Ou encore que le bienveillant empire terrestre doit gentiment mener, en les tenant par la main, vers la civilisation. Encore et toujours la mission civilisatrice. Le Rotary Club, en quelque sorte, mais sur l'alpha du centaure. Et l'autre culturel, l'autre racial. Ceux-là sont les étrangers que tout le monde sait des étrangers. Ce sont les aliens. Le sujet de prédilection de la science-fiction. Dans la bonne vieille science-fiction, tout est toujours très simple. Il faut tuer tous les aliens, et peu importe qu'il s'agisse d'un homme, mente aldébarnien ou d'un dentiste allemand.
Yes, merci Margot. On fait une pause musicale ?
Oui, et je vous propose un autre morceau que j'ai en tête pas mal ces temps-ci, un peu mainstream, mais bon, c'est Air avec Cherry Blossom Girl.
I don't want to be
Back on track on the moon's whack. Heureuse nouvelle année lunaire à vous tous, auditrices du 105.4 FM. Cette chronique s'adresse aux lunatiques, aux mélomanes, aux mélancoliques, aux amateuristes et du délure des ciels, des lunes levantes, des lunes absentes, des lunes dormantes, des étoiles stellaires brillantes sont protagonistes, mais notre propre imagination. Aujourd'hui, 10 février, commence l'année pour ceux qui vivent dans le monde parallèle au temps grégorien, ceux et celles qui vivent dans l'intuition, qui ne maîtrisent pas les aiguilles du montre, qui ne savent pas dans quel temps ils vivent et vivent dans le temps que personne ne sait. Les fous, les folles, les romantiques, les petits cœurs sensibles. Cette chronique aimerait vous donner quelques astuces pour naviguer ces marées d'émotions, ces sursauts d'intensité, ces prouesses psychologiques, ces labeurs mentales, ces étirements moraux auxquels on doit faire face quand la vie se provoque en nous. Alors, pour que la vie soit plus légère à vivre, je vous propose une tisane à concocter pour chaque lunaison à venir. On commence avec la Snow Moon, ou la lune de neige, le 24 février. Elle sera en vierge à 5 degrés, signe de terre en introspection au tourment du cœur. Elle symbolise la cuspide du mois, dans lequel traditionnellement il y a le plus de neige. La reine de la sagesse tourne en rond et ne semble pas progresser dans sa vie. C'est dans ce moment de quiétude que la reine, dans son calme, enfin décide d'arrêter de répéter les mêmes erreurs. Revenir au point de départ pour enfin trouver une sortie. Pour cette lune, je vous propose une tisane de camomille pour le réconfort face au froid, valériane pour son sommeil, romarin pour le tourment et reine des prés pour la sortie. Puis, on continue le 25 mars avec la Warm Moon ou la lune de verre. Elle sera en éclipse avec le nœud sud en balance à 5,07. La voile de l'équilibre et la justesse entre rester trop seul ou faire trop avec les autres. Enfin, se sortir de soi pour se confronter à ses objectifs et faire attention à ce qu'on désire. La lune de verre vient remuer au plus profond de nous pour rendre notre corps fertile aux nouvelles leçons. Nos idéaux se concrétisent sans précédent et cela nous rend plus un peu instables de par la force de nos rêves. Rester isolé ou se joindre à d'autres groupes pour ouvrir ses horizons ? Telle est la question d'un ver qui sort enfin de son nez de la terre. Pour celle-là, je vous propose l'angélique des bois pour son côté enraciné, l'achillée mille feuilles pour son côté digestif, le cerfeuil du bois pour son côté sucré mais antistressant, et la violette en fleurs vous feront vous remettre en vous. Le 23 avril, on a la lune rose ou pink moon en scorpion à 4,17 degrés. Pink pour la venue des fleurs du printemps, puisque après tous les tourbillonnements, les trémoussements, les malaises et les gênes, les idées simples viennent à nous. Les gestes naïfs et bien intentionnés font naissance. C'est un moment très intense où les secrets seront révélés et vous naviguerez les conséquences de ces vérités. Pour faire attention aux profondeurs du scorpion, je vous propose une tisane à la mélisse pour son côté anisé, menthe pour son renouvellement, cyprès pour la circulation et genêt pour dégager les poumons. Encore le 23 mai, la lune de fleurs ou fleurs de lune pour célébrer les saisons et donc celle-ci qui nous ramène de la joie à 2,54 degrés du Sagittaire. Ce moment peut se sentir un peu trop joyeux, donc pas facile à naviguer, car tout donne nervosité pour tout le moment présent et tout ce qui vient. L'amour pourrait être proche, on ne sait pas. Mobilisez votre énergie et vos émotions car la sécurité se trouve dans des réponses plus profondes et plus sûres que vous n'arrivez pas encore à saisir. Pour calmer l'agitation du Sagittaire, le pissenlit pour drainer les liquides, l'aubépine pour se calmer, la lavande pour se détendre, une touche de quelque chose que vous aimez bien ou qui vous rappelle la tendresse pour le côté manifester l'amour. Après le passage du Sagittaire en l'air, on passe au caprice des cornes le 21 juin.
Les jeunes mots.
Le 21 juin à 1,06 degrés de Capricorne, la lune des fraises ou la strawberry moon pour commencer la saison de sa récolte. C'est un moment pour savoir céder ses droits, trouver sa place et être bienveillant. C'est le moment de se mettre à sa place, de se retirer et donner l'amour vrai pour pas en recevoir en retour, mais pour en donner délibérément. Consacrer du temps de qualité à ses proches, s'acquitter de ses tâches domestiques et travailler dur pour cultiver nos réseaux amicaux. Pour cela, je vous propose de vous souder de force avec une tisane de cardamone pour la respiration, vanille pour la fatigue de tout ce ménage, amarante pour renforcer le système immunitaire et le basilic pour le renouvellement du sang. On continue avec les caprices des cornes, encore une fois, pour le 21 juillet, cette fois à 29,18 degrés. À cette occasion, nous serons amenés à la patience, la stabilité face au futur incertain. C'est peut-être un temps où nous voudrons trop voir dans le futur pour calmer nos incertitudes présentes. Être trop impatient pour l'avenir nous fera vouloir trop en savoir. Une compulsion nous anime, les obsessions, les vouloir contrôler ce qui se passe, ce qui va se passer. Rechercher à confirmer ses peurs sans se laisser traverser par elles-mêmes, c'est les éviter. Pour faire face à ce moment d'incertitude, je vous propose la verveine pour y voir plus clair, l'amande pour l'obsession, l'aloe vera pour la protection et la grémoine pour la peur. Pour août, l'amour est à l'ordre de la nuit. En Verseau, 27,14 degrés de la lune bleue s'érige dans le matin pour nous poser la question « Where's the love ?» On ne sait répondre à cette question qu'avec nous, car l'amour est en nous et c'est en nous qu'on trouve l'amour pour les autres et des autres. Ces questionnements sont plus facilement résolus si on adopte une approche fraîche et simple, plutôt que des réponses compliquées, intellectuelles et hautement chargées en émotions. Alors pour que la simplicité règne en vous, je vous propose citronnelle pour encourager à s'exprimer, le laurier pour l'amour, l'hysope pour élever les vibrations, la marjolaine pour les chagrins, si c'est cela ce qui vous empêche de trouver l'amour qu'il vous faut. Quelle que soit la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, la pleine lune de maïs en poisson à 25-40 degrés le 22 septembre viendra tout chambouler car l'amour est à dépenser ailleurs, dans la collectivité et dans les besoins de la société. C'est une période d'examen moral et spirituel et il s'avère d'être nécessaire de nettoyer et de purifier sa vie, ce qui permet d'acquérir de nouvelles valeurs spirituelles, défendre des bons morales, ceux qui vous croyez justes, dénoncer les ténéreuses de pouvoir, abattre les oppresseuses et les systèmes corrompus. Pour faire avancer le monde, soyez son juge et voyez par vous-même ce que vous croyez comme disconfort. S'aimer le chaos pourrait équilibrer les forces. Les chiens, ils font le chaos. Pour cette quête justicière, les fleurs de calendula pour les messages des oiseaux, la chélidoine pour la victoire, le souci pour les questions judiciaires et la fleur d'oranger pour la prospérité seront des bons alliés. Une fois la justice faite, on passe dans la pleine lune du chasseur le 17 octobre en bélier à 24-34 degrés. Parce que c'est bien de faire des quêtes de justice et montrer les défauts du système dans lequel on habite et nourrit, mais une fois passé le jugement des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Make it or break it. L'énergie du bélier vous incite à l'extraordinaire. Des possibilités vous sont soufflées par les royaumes des esprits. Quelque chose nous dit que si on fait quelque chose, malgré ce qu'on décide, une grande abondance nous suivra. Cherchez donc ces opportunités hors du ordinaire, ouvrez les fenêtres et les portes, laissez entrer l'air et le soleil, et observez les bonnes choses qui suivent. C'est dupe de penser que la chance va simplement arriver. Il faut la provoquer en allant dans ce monde et en laissant le monde rentrer en nous. Pour vous accompagner dans cette aventure, je vous propose la bourrache pour le courage, la pimprenelle pour le découragement, l'euphrase pour les perspectives positives et un peu de poivre noir pour la foi. La quête de justice et votre capacité à être extraordinaire vous laissent dans une envie de plaisir, de vie, avec la pleine lune du castor en taureau à 24 degrés exact le 15 novembre. Le fait d'avoir pris des risques fera de vous un leader. On passe du chasseur au castor, bon, du coup, on devient l'animal. Vous êtes reconnu par le monde, par vos compétences de réussite. Vous êtes fort et imposant, ne profitez pas des autres et ne laissez pas profiter les autres de vous, car cela pourrait vous entraîner des réactions en chaîne de la mentalité de chacun pour soi. Le plaisir de la réussite pour entraîner une envie de plaisir sinistre. Ne vous laissez pas prendre dans le jeu du jeu tout puissant. Rescendez, soyez humble et gardez vos trophées chez vous pour vos satisfactions personnelles. Vous n'avez pas besoin de vous vanter dans l'air, de l'air que vous bravez. Pour vous redescendre, je vous propose la violette pour les nerfs, l'abricot pour l'amour et la myrtille pour l'harmonie. Et pour la dernière lune de l'année, on aura la froide pleine lune ou cold moon qui symbolise le début de l'hiver. Cette fois en gémeaux à 23-54 degrés, cette lune vous prépare pour le 2025. Tout ce que vous allez faire en 2024 qui vous a permis de vous soigner maintenant est mis à plat et revu pour que ces bienfaits durent jusqu'à Ne plus vous soucier. Sachez que grâce aux prouesses que vous aurez surmontées cette année, vous serez capable de vous lever, de partir et de vous aventurer seul. Même si l'on peut parfois avoir le sentiment d'être seul et délaissé, il y a toujours un sentiment de sécurité et de confiance en soi et le monde quand on choisit de suivre son instinct. C'est la découverte d'un nouveau sens de l'être que vous allez fortement explorer en 2025. Pour cela, je vous propose de faire votre propre coction. Donc, qu'est-ce que ce nouveau sens de l'être boirait en 2025 pour confronter et avancer ce qu'il advient? Je vous laisse cogiter sur ça. Et sur ce petit béaba de mauvaises herbes, je vous invite à nous appeler si jamais elles n'ont pas été bonnes. Un bisou du docteur Amour.
Merci. Wow, quel timing. On se quitte en musique?
Allez, et du coup, je vous propose un petit side project dont j'ai découvert le Bandcamp hier. C'est Kurt & Courtney avec Violette. Hop là.
Choking, I can see your bullshit through the shut the fuck to this game and you anyone zilch. I kick back and make myself a meal. Lavender and dope can keep it real. You ain't ready for this blood to spill.
On n'était pas à l'antenne. Ah ben voilà, on n'était plus à l'antenne. Bisous, bisous. On laisse l'antenne. Au revoir.